Salut à vous, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier podcast de l'an 2025. Je suis très heureux de commencer cette année avec la mise à jour du setup. Je poursuis un peu les traditions des années précédentes. En 2024, je ne l'ai pas fait parce que justement en 2024, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Pour ça, il y a le podcast que j'ai publié en décembre qui vous raconte ça. C'est le temps de commencer une nouvelle année, c'est le temps de commencer sur de bonnes bases. Et on va commencer en parlant de mon setup. Par le passé, je parlais des nouveautés qui auraient lieu sur le site sur l'année actuelle, mais là, si vous avez écouté ce podcast encore une fois de décembre, il n'y a pas eu grand-chose, puis je compte pas tant révolutionner grand-chose sur l'Exosphere. C'est vraiment... ça va être très très calme. Je vais essayer de partager 2-3 podcasts à droite à gauche cette année, mais honnêtement, il n'y aura pas plus que ça. Mais bon, on va commencer avec quelque chose de traditionnel qui est la mise à jour du setup. On peut diviser maintenant le setup en 3 catégories principales. Les objets prêts à porter, slash EDC. Ça, je vous ferai un petit tour de ça quand j'aurai reçu tout ce qu'il me faut. La partie son et audio. Et la partie technique, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Bon, on va commencer par la partie son et audio, parce que tant qu'à faire. Donc, ce podcast-là est enregistré avec un de mes achats les plus récents pour le côté audio, qui est le Zoom H4E. Et non pas le Zoom H1E. Le Zoom H1E, je l'ai délégué à un ami parce que il s'accordait pas trop à ma voix. Et surtout, il m'empêchait un peu trop de faire des choses. C'était bon pour faire du début, mais ça s'arrêtait là. Tandis qu'ici, avec le H4 que je tiens dans mes mains, on peut enregistrer plusieurs sources en même temps, on peut faire plusieurs belles choses en même temps. Il y a beaucoup de possibilités qui nous sont offertes. Et ça, ça fait plaisir parce que justement, moi, j'aime combiner des choses entre elles. C'est cet enregistreur-là qui prend la place pour enregistrer des podcasts en mobilité, slash en déplacement, comme ça. Et il va pouvoir également permettre de connecter tout ce qui est microphone. Parce que ça, je vous ferai peut-être une série de podcasts sur le H4E plus tard. Mais... on peut tout simplement s'en servir pour faire des tas de choses en enregistrement et avec une excellente qualité. Ça, c'est pour le premier côté au niveau du son et de l'audio. Ça, c'est quand je travaille en déplacement. Et sinon, j'ai des petits micros des Sound Professionals ici que j'ai chez moi. Alors, j'en ai deux. J'ai les Master Series EHB2 et leur version en Mark 2 aussi. Une en jack 3.5 et l'autre en XLR. Donc directement à condensateur, alimenté en plus 48 volts. Donc c'est vraiment des micros qui me permettent d'enregistrer des ambiances, d'enregistrer en binaural dans tous les sens. C'est vraiment conçu pour ça. Et c'est pour ça que je les ai achetés, ces petits microphones-là. C'est très rare que j'enregistre avec eux. Mais vous comprendrez que on peut s'en servir pour enregistrer de l'ambiance. Ça, c'est pour côté enregistrement en déplacement. Sinon, autre chose aussi côté enregistrement, cette fois c'est plus de l'équipement fixe que j'ai ici, quand je suis en studio comme ça. C'est tout simplement ma table de mixage avec mon microphone. Donc ici j'ai une Yamaha MJ10XU et dessus j'ai branché tout un tas de périphériques, dont un Beta 58A qui est mon micro principal quand je suis ici et que je suis assis à mon bureau en train de raconter des conneries. Parce que beaucoup de podcasts de l'année 2024 ont été enregistrés entre autres avec le Zoom H4E. Mais aussi pas mal ont été enregistrés avec le Beta 58 directement sur la Yamaha avec Reaper. Donc ça dépend vraiment de mes envies, ça dépend de mes setups d'enregistrement, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, donc maintenant je peux combiner les deux et pouvoir donc me servir de tout ça à la fois. Donc ça c'est pour quand je suis ici. Et puis c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça c'est pour tout ce qui est côté enregistrement. Et en écoute maintenant, j'ai fait l'achat justement d'un AirPods Max en version Lightning. Je vous en avais fait un podcast en novembre. J'adore ce casque-là, juste je l'adore parce que... Alors certes, je le porte pas beaucoup, je le porte pas très très souvent. Je le porte pas souvent, mais quand je l'ai en place, quand je l'ai sur ma tête... je profite de la réduction de bruit active et de sa transparence qui est inégalée, vraiment, qui est juste incroyable. C'est juste quelque chose que j'apprécie beaucoup, comme ça, sur l'AirPods Max. C'est sa, justement, capacité à être polyvalent dans pas mal de contextes. Et puis, bah voilà, j'adore ça. Ça, c'est niveau son. Sinon, bah, on reste avec le classique. AirPods Pro 2, acheté en 2023. On a aussi... Alors, j'ai testé les AirPods 4. Ça aussi, je vous en ferai un podcast détaillé un peu plus parce que bah, j'ai 2-3 petits trucs à raconter. Mais voilà, donc, donc j'ai testé les AirPods 4 avec ANC. Ils sont pas mal, mais voilà. Et puis, c'est tout. Donc là, bah voilà, c'est pas mal ce qui termine le côté audio et enregistrement. Maintenant, si on regarde côté tech prêt-à-porter slash wearable slash début d'un EDC, EDC pour Everyday Carrying, eh bien en fait, j'ai fait beaucoup de changements là aussi. On va commencer par ce qui se trouve sur mon poignet. J'ai remplacé mon Apple Watch série 6 par une Apple Watch série 10 de 46 mm. C'est donc celle-là qui m'accompagne. La série 6, voilà, je la trouvais un peu petite en 40 mm. Et sa batterie, bah, certes, elle avait quelques années, mais sa batterie était assez décevante. J'arrivais à peine à tenir quelque chose comme même pas une dizaine d'heures, entre 12 et 18 heures. C'était très dommage. Tandis que là, bah, avec ma 46 mm, je tiens à peu près une trentaine d'heures sur batterie. Donc ça fait très plaisir, honnêtement. Peut-être un peu moins de 30 heures, mais je tiens à peu près une trentaine d'heures sur batterie, donc ça, c'est vraiment cool. Et surtout, c'est plus grand, on a plus d'espace, on peut faire un cadran avec plus de complications, donc ça, vraiment, ça fait plaisir. Voilà, quoique Infographe reste mon cadran principal, que j'adore parce qu'il est simple, il va à l'essentiel, et surtout, bah, il est sur un fond noir, ce qui veut dire que vu qu'on a un écran OLED, bah, ça consomme rien, et ça, c'est génial. Sinon, autre truc en wearable que j'ai acheté en novembre les Ray-Ban Meta Smart Glasses. Alors, elles sont très bien, hein, elles sont très très bien. Mais le seul truc qu'il faut se dire, c'est que justement, bah, c'est l'IA qui marche en anglais uniquement. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas plus mal non plus, ça permet de pratiquer son anglais. Mais elles ont un très 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 bon son, et ça c'est cool. C'est pour ça que je vais vous en faire un podcast un jour, c'est que je veux vraiment essayer de trouver le setup qui marche là, pour pouvoir faire ça, là. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et puis, qu'est-ce que ça permet de faire? Bah justement, ça permet de profiter avec une savante combinaison d'audio, enfin de projection audio, enfin de conduction audio aérienne et de conduction osseuse. Ça permet de profiter d'un très bon son, très basseux, très joli. Alors, la batterie est un peu en deçà de ce qu'on peut attendre, mais bon, pour des premières lunettes comme ça, honnêtement, c'est vraiment pas mauvais. Fait que bref, ça m'accompagne de temps en temps. Sinon, le fameux OpenCom de Shogs que j'ai depuis près de 2 ans, lui aussi m'accompagne encore très bien. Il tient encore très très bien la route. J'ai analysé à peu près une quinzaine d'heures d'utilisation. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est une batterie, c'est un casque à conduction osseuse que je suis pas déçu d'avoir. Quoique le Open Run Pro 2 me fait de l'œil, avec sa combinaison de conduction osseuse et de conduction d'audio aérien, ça me fait vraiment de l'œil, parce que moi qui aime les technologies un peu exotiques comme ça, bah, surtout dans le son, bah, ça, voilà, c'est très tentant. Bref, donc ça, c'est pour la conduction osseuse et les lunettes. Et autre chose, cette fois, qui est venue remplacer mon iPhone 14 Plus, c'est l'iPhone 16 Pro. Alors effectivement, j'en ai profité le 20 septembre pour l'acheter, hein, le jour de la sortie. C'est mon téléphone principal. Je le compte dans les objets à porter parce que justement, il me suit littéralement partout. Et ça fonctionne, et honnêtement, ça fonctionne bien. Tout roule bien. Alors, au bout de quelques mois d'utilisation, vu l'usage que j'en fais, c'est-à-dire beaucoup de lectures vidéo, j'arrive à finir la journée à peu près avec une trentaine, quarantaine de pourcents de batterie. Et puis, si je m'en sers très peu, bah voilà, il tient au moins un jour et demi, voire deux, voire plus que ça si on le met en mode économie d'énergie, et mode avion et tout ça, mais là, c'est un peu moins d'intérêt. Mais voilà, ça aussi, je vous en ferai un podcast plus tard, mais évidemment, on a le dernier processeur A18 Pro à l'intérieur, une taille d'écran de 6.3, bref. Donc non, vraiment, ça fait plaisir de voir ce petit téléphone téléphone entre mes mains. Avec lui, ce qui l'accompagne aussi, c'est une batterie MagSafe que j'ai acheté qui est une batterie de chez Ugreen, qui est une 10 000 mAh, donc qui permet d'assurer au moins, on va dire qu'on part de 20 à 30% de batterie jusqu'à, ouais, jusqu'à 95%, qui permet d'assurer 2 recharges et demi, voire 3, ça dépend de la fréquence à laquelle on recharge, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment nice. Ça permet d'avoir comme ça, de pouvoir recharger sans trop se casser la tête à brancher un câble et tout. Non, on fait juste claquer la batterie derrière le téléphone et ça recharge. Donc ça, ça fait plaisir. Ça, c'était pour le wearable. Donc iPhone 16 Pro, Apple Watch Series 10, batterie MagSafe de 10 000 mAh. Ray-Ban Meta pour les occasions qui s'y prêtent. Bref, de la belle technologie que j'ai fait l'achat. Ensuite de ça, on va passer au côté technique de la chose. Et pour le côté technique, j'ai renouvelé mon mini PC, j'ai renouvelé mon ordi portable et j'ai même acheté un Mac. Alors, on va en parler un peu. Niveau Mac, j'ai racheté à un de mes amis un MacBook Air M2 avec la configuration la plus basique. Hein. Donc voilà, M2 dans sa version très basique avec 8 Go de RAM. 256 Go de stockage, de quoi exploiter macOS et de quoi suivre l'évolution du Mac. C'est cool d'avoir un Mac, hein, vraiment, c'est très bien parce qu'il tient dans la durée, sa batterie elle est folle, même sur des portages d'applications Intel qui roulent sur la chip Apple Silicon, comme VLC par exemple, bah, qui pourtant consomme de la ressource, mais ça se passe très bien, le Mac descend très très peu. Ça c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est pour... ma machine comme ça, je m'en sers principalement pour prendre des petites notes, m'amuser un peu avec GarageBand de temps en temps, moins maintenant parce que j'ai très peu de temps, mais quand même, je m'en sers beaucoup pour ce genre de tâches-là, et regarder des petits films, des petites choses, parce que je sais que toutes mes machines sous Windows, enfin ma machine principale portable sous Windows descendrait un peu, certes, mais beaucoup plus quand même qu'un MacBook Air sur la puce M2. Et d'ailleurs, tant qu'à transitionner, on va transitionner dans la machine portable que j'ai achetée tout récemment, cette fois en décembre, qui est tout simplement un Vivobook S14 de chez Asus. À l'intérieur, on y trouve un processeur qui est un AMD Ryzen 9 AI 9365HS, donc disque 20 threads, avec 24 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage flash NVMe, et puis bah voilà, un bon système audio, un bel écran OLED. Le tout dans un format d'un PC de 14 pouces qui fait vraiment plaisir à voir. Honnêtement, vu la tête qui tire, on dirait vraiment que c'est un Mac. Bon, avec le système en plus qu'il faut se battre pour le faire marcher. Mais voilà, au moins il fonctionne. Et surtout, c'est le premier PC que je possède, la première machine portable que je possède, qui est équipée d'un NPU, c'est-à-dire d'une toute petite partie dans le processeur qui est dédiée également au traitement de l'IA. Voilà. Qui est tout simplement extrêmement bienvenue quand on fait de l'usage, par exemple, de Whisper pour faire de la transcription de la parole au texte. Et pour faire tourner des petits modèles en local, alors on va peut-être pas faire tourner du DeepSeek R1, mais, cela dit, c'est quand même bien nice d'avoir cette petite machine-là qui m'accompagne tous les jours. Autant vous dire qu'à côté, le Dynabook s'est fait mettre une claque. Littéralement, il s'est fait mettre une claque par cette machine-là de chez Asus. Et en plus, il est tout beau, celui d'Asus, il est tout en aluminium et tout. Non, vraiment, on dirait un Mac avec la batterie qui tient un peu moins avec un truc un peu moins bien optimisé. Mais on dirait un Mac tellement il est joli, tellement il est mince, tellement il est en alu comme ça, tellement ses arrondis sont très très bien faits. Non, pour vrai. Ça, là-dessus, vraiment, je déteste pas ce qu'ils ont fait. Ça, c'est pour le côté portable. Et maintenant, en côté fixe, si on regarde bien, comme mini PC principal, oui, je suis encore sur un mini PC. J'ai remplacé mon Beelink SER 5 Pro, donc celui que j'avais l'année dernière, par un Beelink SER 9. Donc, ça veut dire qu'ici, on est passé d'un 5800H comme processeur sur le Beelink SER 5 Pro, à un autre AMD, cette fois c'est un AMD Ryzen 9 AI 9370HX. Encore une fois, dans les puces les plus puissantes qui existent en x86 à l'heure actuelle, on est à 12 cœurs, 24 threads sur cette machine-là, 32 Go de RAM comme mon ancien, 1 Teraoctet de stockage, pas comme mon ancien pour le coup, et voilà, et je pense le même GPU pour ce qui est enfin le même iGPU pour ce qui est de la partie graphique. Et lui aussi, on a un accélérateur pour l'intelligence artificielle, donc un NPU, qui peut me donner à peu près 50 TOPS. Donc voilà, donc ça, pour ceux qui savent, ça veut dire que justement, on a sa vitesse de traitement en gros en IA. Et voilà, et lui aussi, il est pas mal, hein, il est tout en aluminium et tout, ou en tout cas, c'est métallique le châssis. Et vraiment, voilà, et ça tient bien la route. Ça tourne super bien. Donc, c'est lui qui est ma machine principale quand je suis ici à la maison. Sinon, pour ce qui est encore plus technique, ça c'est plus côté serveur ou autre chose, je me suis un petit peu lancé dans ce projet-là. J'ai un autre Beelink, un Mini S, cette fois, qui fonctionne avec un Celeron. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est un Celeron. Avec, je crois, 128 ou 256 gigaoctets de stockage, bref. 8 gigaoctets de RAM, bref, c'est une machine qui n'est pas très très puissante, mais qui fait tourner un Home Assistant, qui fait tourner 2-3 petits utilitaires pour mes usages personnels. Et puis, bah voilà, et ça marche très bien, parce que, bah voilà, c'est en gros sur ça que tourne ma domotique. Ça fait vraiment plaisir de faire ça, parce que, bah, justement, ça me permet d'apprendre des nouveaux projets, ça me permet d'apprendre des nouvelles choses. Voilà, voilà, écoutez, je pense que ça fait le tour de pas mal tout, hein. Donc, en gros, je me suis fait plaisir en audio, je me suis fait plaisir au niveau de mes machines, et je me suis fait plaisir au niveau de mes tech portables. Donc voilà, c'est un setup qui a beaucoup de sens. Alors là, on va me dire, oui, mais tu te sers pas toujours de tout. Ça te sert à quoi d'avoir tout ça? Ben, en fait, c'est ça la clé. C'est que si on regarde bien attentivement la partie audio, entre autres, mes micros binauraux, c'est vrai que je m'en sers pas très souvent. C'est vrai, on va pas se le cacher. C'est immensément vrai que je m'en sers pas très souvent. Mais par contre, quand ils peuvent servir, ben, au moins j'ai le choix entre, par exemple, des micros qui vont capturer plus en champ proche et des micros qui vont être plus en champ large. Ça dépend de pas mal tout justement de ce que j'ai envie. Donc j'ai vraiment un setup que j'ai perfectionné pour qu'il s'adapte à tout ce que j'ai envie de faire sur l'instant T. Et j'avoue que le gros coup que j'ai fait, à part l'enregistreur et les micros, c'est vraiment le Vivobook S14 OLED de chez Asus que j'ai acheté, qui me permet littéralement d'avoir tout au creux d'un portable qui me suit, hein, qui se connecte avec toutes mes machines, tous mes trucs au travers de mon VPN. Donc ouais, donc non, ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir d'avoir tout ça qui est à ma portée. Et donc, bah, que dire de plus? Bah voilà, je pense que là, avec ce setup, je devrais tenir très longtemps. Alors, je sais pas si je vais tenir très longtemps avec mon mini PC actuel. Avec mon portable, oui. Ça, oui, on est parti pour au moins 3 ans facile, voire plus, d'usage. Le Mac, je pense pas qu'il va tenir très longtemps sur la durée. MacBook Air M2, c'est quoi? C'est 2021, 2022? Je pense que c'est vraiment plus. Plus sur le côté. Donc peut-être qu'il y aura une mise à jour plus importante d'ici quelques années encore. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre que je peux vous raconter. C'était vraiment un aperçu général de mon setup que je voulais vous montrer. Ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça. Alors il y a des podcasts sur certaines choses qui vont arriver bientôt. Entre autres, l'iPhone 16 Pro, son podcast devrait arriver. J'attends l'arrivée d'Apple Intelligence pour le faire en français. Je fais délibérément laisser du temps à Apple Intelligence pour que ça arrive. Le Zoom H4e, lui, il y aura peut-être des podcasts plus tard, peut-être pas tout de suite. On va voir comment ça tourne, mais je pense pas pouvoir sortir de série sur le Zoom H4e cette année. Peut-être l'année prochaine, on va voir. Sinon, les AirPods 4 aussi auront leur petit podcast eux aussi. Ah oui, puis aussi la Yamaha. La Yamaha, c'est vrai. Faut que je vous fasse un podcast sur la Yamaha MG10XU. Parce que pour de vrai, c'est une table de mixage qui, certes, peut paraître très compliquée au premier abord. C'est vrai que quand on n'a pas goûté, on n'a pas touché à une table de mixage, on est comme, ok, mais il y a plein de boutons, il y a plein de roulettes, je suis perdu. Mais quand on sait exactement qu'est-ce que fait telle chose, ou au moins les fonctions de base de la table, on peut se débrouiller pour faire quelque chose qui tient, quoi, tout simplement. C'est vraiment... C'est quelque chose de... Ouais, de... de vraiment d'important à connaître. Donc je vous ferai ça. Puis bah ouais, on va parler de pas mal tout ça. Je dis pas que je vais faire tous ces podcasts là, mais au moins une bonne partie sera en ligne sur le site. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et puis bah nous, bah, on se retrouve plus tard pour un autre podcast sur Lexosphere. N'oubliez pas que la page Facebook reste active. J'y publie très rarement des choses, mais c'est parce qu'il se passe très rarement des choses intéressantes. Merci à vous d'avoir écouté, et puis nous, ben, on se retrouve plus tard sur Lexosphere pour d'autres aventures et d'autres podcasts. Allez, à bientôt!